bonsoir à tous. Vers une candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle algérienne. Pas encore de confirmation officielle ce soir, mais le pouvoir ne renonce pas, malgré encore plusieurs rassemblements en Algérie et en France aujourd'hui. 6000 manifestants à Paris, 1 millier à Marseille, des étudiants dispersés au canon à eau à Alger. Les principaux opposants du pouvoir en place se retirent les uns après les autres de l'élection. Point complet sur cette journée à haut risque pour le pouvoir algérien dès le début de ce journal. Le bilan en demi-teinte du Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes ce dimanche soir. Fréquentation en baisse, mais grande qualité des échanges avec le public, soulignent les organisateurs, vous l'entendrez. La police sur le qui-vive à Grenoble ce soir après une nuit de violence à la suite d'un accident mortel. Deux jeunes pris en chasse par des policiers ont péri hier soir dans un accident de scooter, affrontement, feu de poubelle. Le calme n'est revenu qu'au petit matin dans le quartier du Mistral. Dans ce journal également, la météo, attention, alerte au vent violent demain du nord de la Seine au Grand Est. 35 départements vigilance orange. Une pêche miraculeuse à l'aimant magnétique. C'est fou ce qu'on remonte du fond de l'eau, parfois même des coffres-forts. À suivre, le journal des sports. Toulouse, heureux en rugby, 28-9 face au Stade français, mais écrasé en foot par Lyon, 5-1. On y revient dans un quart d'heure.
France Inter.
Que contiennent les fourgons aperçus en fin d'après-midi aux abords du Conseil constitutionnel à Alger? Des cartons blancs siglés direction de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika étaient aperçus à l'intérieur. Pas encore de confirmation officielle, mais il pourrait bien s'agir des parrainages ouvrant la voie à une cinquième candidature du chef de l'État à la présidentielle. Bonsoir Thibaut Cavaliès.
Bonsoir Fabien.
Que sait-on ce soir de manière certaine?
Alors de manière certaine, à l'heure qu'il est, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika a rendu publique sa déclaration de patrimoine nécessaire donc pour une candidature. Elle est datée d'aujourd'hui, signée d'Alger, ce qui peut étonner, vu que pour l'instant, il semblerait que le président algérien soit toujours hospitalisé à Genève. C'est Algérie Presse Service qui l'annonce, l'agence de presse officielle, seule source fiable dans le pays, et qui, indice, présentait cet après-midi le président Bouteflika comme candidat à l'élection du 18 avril prochain, même si l'annonce officielle n'avait toujours pas été faite et n'a toujours pas été faite. Pour ce qui est des autres signes, des télévisions algériennes qui affirmaient il y a quelques minutes que le directeur de campagne du candidat Bouteflika devrait lire sa lettre de candidature d'un instant à l'autre. Alors une déclaration en fin de journée, peut-être pour éviter de provoquer la rue et subir pour les autorités de nouvelles manifestations. Et dernier indice, le débit téléphonique semble réduit en Algérie selon le relais sur place, pas ou peu d'internet. Et quand on appelle sur les portables, on entend bien que la ligne est très mauvaise, voire les gens sont injoignables. Cet après-midi encore, des étudiants sont sortis à Alger, fébriles, dans l'attente. Voici ce que nous disait sur place Amira, une jeune étudiante.
C'est flou, tout est flou. Il y a tout le monde qui dit n'importe quoi, sont des sources fiables, tout le monde est perdu, les médias y compris. Et on attend.
Voilà, Amira qui parle de flou, flou également quant à la présence ou non du candidat pour la remise du dossier auprès du Conseil constitutionnel. Est-ce obligatoire? On n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, le bâtiment est protégé en ce moment par les forces de l'ordre avec hélicoptère au-dessus d'Alger, alors que les manifestants tentent de se rassembler et tentent depuis cet après-midi de se rassembler devant. Seule certitude finalement, Fabien, c'est que si Abdelaziz Bouteflika se présente à un cinquième mandat, les Algériens l'assurent, ils poursuivront leurs manifestations.
Thibaut Cavaliès de la rédaction internationale de Radio France, merci. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika semble donc prendre corps et c'est peut-être notre indice. Ses opposants se retirent de la course les uns après les autres. Cet après-midi, c'est son adversaire politique le plus sérieux qui a jeté l'éponge, l'ancien Premier ministre Ali Benflis.
Je considère que aller à ces élections, c'est crédibiliser quelque chose qui n'est pas une espèce de sortie de la crise. Et la preuve, elles vont se dérouler dans un climat de total le rejet du pouvoir, la rue, elle est là, vous pouvez le constater vous-même. Les gens rejettent le pouvoir, rejettent ces élections. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la volonté populaire, en la souveraineté du peuple, en la pleine citoyenneté. Il faut que vous sachiez que le peuple n'est pas souverain puisqu'on on viole le scrutin. Vous votez pour X et Y qui prend vos voix. Est-ce qu'on peut aller de l'avant avec cela? Non. Et donc, je ne vais pas être complice de quelque chose qui est un retour en arrière.
Ali Benflis au micro de Leïla Berato à Alger. Une situation suivie de très près tout aujourd'hui en France. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes. À Marseille, cette manifestante Radja tenait à se mobiliser aujourd'hui pour le respect de la démocratie dans son pays d'origine.
On est français, mais je veux dire, on est impliqué parce que vous savez très bien que beaucoup d'Algériens rentrent au pays pendant les vacances. Il n'y a pas un seul Algérien ici que vous prenez qui n'a pas au moins une famille en Algérie. J'ai une double culture. sûr. Et ces Algériens, normalement, aujourd'hui, s'ils ripostent même dans toutes les villes de France, et j'espère aussi dans tous les pays du monde, c'est pour dire, c'est bon, on a été assez dupés et qu'on a envie d'avoir un avenir avec un président qui soit vraiment un vrai démocrate, comme en France. Je veux dire, regardez, monsieur Macron, on n'en est peut-être pas content, on arrive quand même à vivre normalement, à avoir une liberté, liberté de s'exprimer. En Algérie, on risquerait de leur tirer dessus d'ici ce soir, quoi. Mais ce Bouteflika, il est malade. On l'a jamais vu depuis 2013. Il parle pas. On lui en veut pas. Au contraire, on lui souhaite justement la guérison. Maintenant, les gens, ils se servent de lui pour nous duper, pour pouvoir commander à sa place. Voilà.
Une manifestante Radja au micro d'Olivier Martoc. Dossier complet sur l'élection présidentielle en Algérie à retrouver sur franceinter.fr.
Le journal de 19h sur France Inter.
630 000 visiteurs cette année au Salon de l'Agriculture. Une fréquentation en baisse, peut-être la concurrence du beau temps en début de semaine. Toujours est-il que les organisateurs estiment avoir rempli leur objectif, redorer le blason d'une profession qui avait le sentiment d'être prise en grippe par l'opinion publique. Jean-Luc Poulain, le directeur du Salon, joint par Sébastien Sabiron.
C'était vraiment un lieu de débat, ce salon, et non un lieu de combat, comme on a un peu l'habitude de voir ces jours-ci dans notre pays. Les agriculteurs qui souffraient un peu du blues parce que on les accuse sans arrêt de tous les maux de la terre, sur ce salon, ils ont retrouvé vraiment un sens à leur métier. On n'a pas entendu, vous êtes des pollueurs, vous êtes des assassins, vous êtes tout le discours négatif qu'on entendait depuis des années. Et on a des gens qui comprennent que l'agriculture, elle est vraiment dans le sens de la marche. Quand on dit plus de qualité, moins de phytosanitaire, quand on dit mieux de bien-être animal, il y avait un grand respect entre les uns et les autres. Sur ce salon, il y a eu 68 délégations étrangères. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura plus. Donc, il faut qu'on regarde comment on peut plus internationaliser, mieux accueillir, parce que l'agriculture française est aussi une agriculture d'exportation.
L'économie et la ruralité, avec cette question en Corrèze, les mairies devront-elles payer les banques pour qu'elles maintiennent leurs distributeurs de billets à la campagne? C'est ce que demande le Crédit Agricole aux communes de Vigeois, Sainte-Féréole et Chambolive, à moins de trouver une solution pour réduire leurs coûts. Reportage Philippe Graziani à Chambolive.
L'agence du Crédit Agricole collée à la mairie a fermé depuis de nombreuses années, mais l'enseigne et le distributeur sont toujours là. Jean-Luc vient de s'y arrêter.
J'habite le Longjac, mon compte en banque est à Trignac et je m'en sers une fois ou deux par semaine, largement. Et moi je trouve que c'est très pratique, c'est dommage. Je vois pas pourquoi ils ferment ça, parce que ça rend beaucoup de services.
Un sentiment unanimement partagé à Chambolive et dans les communes voisines. En atteste, explique le maire, une pétition qu'avait lancée fin 2018 des associations avec la mairie. Noël Martini.
Il y a eu 850 personnes qui ont signé la pétition, et pas uniquement des gens de Chambolive, des gens de communes avoisinantes, parce que s'il s'en va pour avoir de l'argent après, il faut aller soit à Seillac, soit à Userche, et ça pose problème.
Car sans distributeur, c'est toute l'économie qui souffrira, assure le maire. Car les gens viendront moins dans les commerces à Chambolive s'ils ne peuvent retirer de l'argent. Idem lors des nombreuses animations organisées par les associations du village.
Un soir d'une manifestation, les gens ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au distributeur et relèvent de l'argent. S'ils n'en ont pas, ce sera autant de moins à gagner pour l'association. Et plein de choses comme ça.
Pas question cependant de payer une partie du coût du distributeur, précise Noël Martini, qui a une autre solution. Il a proposé à la banque de racheter son ancienne agence et de lui louer pas cher la place nécessaire pour le DAB. Les négociations sont en cours.
Les communes rurales, objectif prioritaire pour la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Elle tenait meeting près de Toulouse cet après-midi dans le cadre de la campagne pour les élections européennes.
Nous souhaitons aussi aller dans des villes et des villages français qui ne font plus partie de la carte des politiques nationales. Aujourd'hui, rien n'est fait pour eux. Ils sont complètement oubliés, ils sont complètement mis de côté. Or, c'est la France et nous venons les voir, nous venons leur parler, nous venons leur dire que la politique que nous voulons mener est une politique pas uniquement pour les métropoles, pas uniquement pour les très grandes villes, mais pour l'ensemble des Français et l'ensemble des communes françaises.
Les policiers sur le qui-vive à Grenoble, dans le quartier du Mistral, qui se remet d'une nuit de violences urbaines. Des affrontements entre la police et une centaine de jeunes après que deux d'entre eux sont morts hier soir dans un accident de scooter poursuivi par des policiers. À Grenoble, les précisions d'Elisa Montagna.
L'une des deux victimes était un ancien habitant du quartier Mistral, l'autre y vivait encore avec ses parents. Une quarantaine de minutes après l'accident, des émeutes éclatent dans le quartier. Feux de voitures, de poubelles, insultes, une centaine de jeunes fait face aux forces de l'ordre. Vers 1h du matin, une quarantaine d'entre eux s'en prend à un cantonnement de CRS à proximité. Ils incendient deux voitures à 30 mètres du portail puis tentent de l'escalader. Un CRS sort du poste de police et pointe son fusil d'assaut sur eux pendant que son collègue lance des grenades lacrymogènes et appelle les renforts. Les individus repartent mais continuent d'allumer des feux de poubelles et de voitures. Les heurts se poursuivront jusqu'à 5h du matin. À Grenoble, Elisa Montagna, France Bleu Isère pour France Inter.
L'Alsace face au fléau de l'antisémitisme. Un rassemblement était organisé ce matin devant le cimetière juif de Quatzenheim, deux semaines après sa profanation. Une stèle en souvenir de l'ancienne synagogue de Strasbourg détruite par les nazis pendant la guerre a été renversée avant-hier. C'est dans ce contexte que le rectorat relance un partenariat avec le mémorial de la Shoah pour qu'elle soit étudiée à travers des voyages organisés pour les lycéens. Olivier Vogel de France Bleu Alsace a rencontré un groupe scolaire de retour d'Auschwitz, forcément impressionné.
Avant d'aller sur place à Auschwitz il y a quelques semaines, Laura, une lycéenne en terminale CAP à Célestat, avait une très vague idée de la Shoah.
On ne s'y attendait pas du tout. On était tous sous le choc. Quand on n'était pas sur place, on pensait que c'était pas grand-chose et en fait, si.
Avant de vous lancer dans ce projet, vous aviez entendu parler de la Shoah, du génocide des Juifs ?
Pas vraiment.
Camille, elle aussi en terminale CAP, a participé au même voyage dans l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz. Depuis, les dégradations et les propos antisémites ont pour elle une toute autre résonance.
Vu qu'on a été sur les lieux, on voit les choses maintenant différemment sur les croix gammées sur Simone Veil.
C'est quelque chose qui vous révolte aujourd'hui ?
Depuis qu'on a visité les lieux, oui.
Ça n'aurait pas été le cas forcément si vous n'étiez pas sur place.
Je pense que non.
Armelle Morgenthaler, prof de lettres et d'histoire au lycée Schweizgut de Célestat, encadre régulièrement des groupes de lycéens à Auschwitz. Une sortie plus que nécessaire quand on sait que la connaissance que certains élèves ont de la Shoah est parfois plus qu'approximative.
Ils connaissaient la Shoah, mais dans des clichés, des stéréotypes. La Shoah, oui, ça existait, mais c'était pas si grave que ça. Oui, il y a eu des juifs, mais ce qu'ils ont supporté, c'était pas si grave.
Selon un récent sondage, un jeune Français sur cinq ne sait pas ce qu'est la Shoah.
Toujours à Strasbourg, le frère de l'auteur de l'attentat sur le marché de Noël a été déféré ce dimanche au parquet. Il comparaîtra demain pour menace de mort en récidive à cause de messages menaçants publiés sur Internet, sans lien toutefois avec l'attaque perpétrée par son frère. Ce documentaire à présent qui fait grand bruit sur l'icône pop Michael Jackson, diffusé ce soir aux États-Unis, il le sera aussi en France dans quelques mois. Deux hommes y déclarent avoir été violés par le chanteur alors qu'ils étaient enfants. Loïc Piala, Los Angeles.
Wade Robson a rencontré Michael Jackson à l'âge de 5 ans lors d'une tournée en Australie. L'enfant venait de remporter un concours d'imitation de la star. Jackson a invité toute sa famille à Neverland en Californie. Le chanteur a même demandé à la mère de Robson s'il pouvait garder son fils avec lui pendant un an. Elle a refusé. James Sevchuk est lui devenu ami avec le roi de la pop après le tournage d'une publicité pour Pepsi. Au-delà des viols récurrents, son idole avait organisé une fausse cérémonie de mariage quand Sevchuk avait 7 ans. Ceux qui ont vu le documentaire parlent de témoignages détaillés et perturbants qui pourraient remettre en cause une bonne fois pour toutes l'image de Jackson. La famille de la star dénonce un lynchage et rappelle que l'interprète de Bad a été innocenté de toute charge en 2005. Robson avait même témoigné en sa faveur à l'époque. Il explique que l'artiste l'avait convaincu de ne rien dire. Devenu père, les deux hommes ont décidé de sortir de leur silence. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Ça ressemble à une pêche miraculeuse, une pêche magnétique avec un aimant lancé au fond de l'eau qui a permis à un Hérolté de remonter notamment un coffre-fort. Reportage sur les bords du canal Philippe Lamour près de Moguio, Adrien Serrière.
Alors, ça c'est l'aimant.
Ça c'est le fameux aimant.
De la taille d'une balle de tennis, l'aimant utilisé par Chris Detec a une force de traction de 800 kg.
Il a véritablement une puissance aimantable. Phénoménal.
Et c'est ce qui lui a permis de pêcher un coffre-fort.
Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais le jour où tu tombes sur une boîte, tu te dis, du moment où tu l'as pas ouverte, tu l'ouvres et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au fond de l'eau? C'est haletant.
Allez, c'est l'heure de lancer.
Let's go. Et tu ramènes. Voilà, tu vois, là j'ai un truc. J'ai aimanté quelque chose, je sais pas ce que c'est.
Après plusieurs tentatives pour ramener cette grosse prise, la voilà, qui sort du canal. Une pièce de voiture avec de grosses moules d'eau douce par-dessus.
Là, on voit bien que ça fait des années et des années que c'est sous l'eau. et que cette voiture est là sous l'eau depuis...
Et c'est justement pour dépolluer le canal que Chris Détec et son ami Low & Co pratiquent la pêche à l'aimant.
On a même sorti des cadres de moto avec des réservoirs où l'huile et l'essence remontaient à la surface, et ça c'est inadmissible.
Et que ça pollue vachement les canaux.
Dépolluer et jouer aux aventuriers, leur plus belle pêche du jour, une carabine Winchester.
La pêche miraculeuse à l'aimant dans l'Hérault, une vidéo à retrouver sur francebleu.fr. Un dimanche de retour de vacances pour ceux qui reprennent le travail demain. On fait le point sur vos conditions de circulation avec Valentine Joubin, en direct du PC Mobilité de Radio France. Valentine, des difficultés à Marseille notamment ce soir.
Oui, sur l'autoroute A50, il faut près d'une heure pour rejoindre le sud de la cité phocéenne depuis Aubagne, conséquence d'un accident à hauteur du 11e arrondissement. Au nord de Marseille, l'A7 est elle aussi embouteillée, de Vitrolles jusqu'à Septèmes-les Vallons, tout comme l'A51 à partir de Bouc-Bélair, et ça coince aussi sur l'A55 toujours pour accéder au centre de Marseille. Des bouchons, il y en a aussi en ce moment sur la rocade toulousaine entre l'Ardenne et Rangueil. Et puis en région parisienne, la circulation commence à se charger sur l'A13 pour les retours de Normandie, autour du péage de Buchelet précisément, et sur l'A6 de Cachan à la porte d'Orléans.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Le temps, attention, 35 départements placés en vigilance orange demain pour des vents violents. Les rafales pourraient atteindre 120 km/h du nord de la Seine au Grand Est en passant par l'Eure-et-Loire et le Loiret. Jean-Michel Golinski.
Demain, seules les régions méditerranéennes vont garder un temps sec et calme. Ailleurs, pluie, averse et vent fort vont occuper le terrain avec déjà ce soir et la nuit prochaine des précipitations marquées du Sud-Bretagne au Val-de-Loire et des rafales à 100 km/h du Finistère au Cotentin jusqu'à 130 km/h sur les côtes vendéennes. Demain, ce vent fort va concerner la plupart des régions avec des rafales supérieures à 100 km/h sur les départements placés en vigilance orange, vent qui pourrait dépasser les 130 km/h en montagne. Dans cette agitation, il va pleuvoir le matin de Rhône-Alpes au Grand Est et du Massif central aux Pyrénées, neiger sur tous les massifs à partir de 1000 mètres. Sur le quart nord-ouest, la matinée sera déjà marquée par des averses et des orages. L'après-midi, ce temps instable va gagner vers les régions du sud et de l'est, le tout dans des températures en perte de vitesse.
Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir.
Allons tout de suite à Glasgow, où se déroulent les championnats d'Europe en salle d'athlétisme jusqu'à ce soir.
Effectivement, avec de réelles chances de médailles aujourd'hui pour ce dernier jour de compétition en Écosse. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors on attendait surtout trois Français au départ du 60 mètres haies.
Deux sont sur le podium, mais pas sur la première manche. C'est le Chypriote Trajkovic qui vient de s'imposer avec 1/100 d'avance sur le champion d'Europe en titre en plein air, Pascal Martineau-Lagarde, qui décroche donc une nouvelle médaille, sa 5e dans des championnats d'Europe en salle. Médaille d'argent pour Pascal Martineau-Lagarde et le bronze pour Aurel Manga. Deux Français donc sur le podium du 60 mètres haies. Déception en revanche pour Willem Belossian, le 3e larron qui termine 7e de cette finale du 60 mètres haies.
Alors quelles sont les dernières chances de médaille? Car il y en a pour le reste de la soirée. Hein.
La meilleure chance de podium, voire de titre, repose sur les épaules de Renelle Lamotte dans le 800 mètres, vice-championne d'Europe l'été dernier à Berlin. Elle a impressionné en demi-finale. Elle est clairement candidate au titre. On suivra également les deux triples sauteurs, Johan Rapinier et Kevin Nuron. Eux aussi ont une chance de podium. Le concours de la perche féminine vient de débuter avec la Française Ninon Guillot-Romarin. Et puis en fin de programme, comme il est de tradition, les deux relais 4x400 mètres masculin et féminin. Les deux relais français seront au départ de ces courses.
Merci Vincent Pellegrini, donc en direct pour France Inter de Glasgow au championnat d'Europe d'athlétisme en salle.
Le football à présent avec pas moins de 5 matchs de Ligue 1 au programme du jour.
Alors en attendant la principale affiche de la soirée, ce sera Marseille-Saint-Etienne ce soir au Stade Vélodrome. En début d'après-midi, peu de buts mais un but important pour Lille qui a battu Dijon 1-0. Lille qui revient à 17 points tout de même du Paris Saint-Germain qui est bien parti pour être de nouveau champion. Nice a également battu Strasbourg 1-0, on y revient. Et puis Guingamp et Nantes ont fait match nul 0-0. En attendant, voici des nouvelles du match de Lyon contre Toulouse. Alors là, il y a eu une avalanche de buts en revanche, puisqu'il y a eu 5-1 pour Lyon, Rodolphe Montagnier, une équipe de Lyon qui n'a pas fait de détails ce soir.
Une semaine après sa défaite à Monaco et 10 jours avant son 8e de finale retour de Ligue des Champions à Barcelone, l'Olympique Lyonnais a aisément disposé de Toulouse en cette fin de dimanche après-midi. Les joueurs du Sud-Ouest n'ont tenu la distance que durant une petite demi-heure. Revenus à la hauteur des Lyonnais, qui avait pris l'avantage grâce à Memphis Depay dès la 10e minute de jeu, le buteur toulousain Mathieu Dossévi et ses coéquipiers ont très vite pris l'eau. Bertrand Traoré puis Nabil Fekir sur pénalty ont permis à Lyon de gérer leur seconde période marquée par le doublé de Moussa Dembélé en 3 minutes et l'expulsion du Toulousain Yannick Cahuzac. Avec ce 14e succès de sa saison, l'Olympique Lyonnais reste au contact de Lille dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Les Toulousains, eux, restent sur 6 matchs sans victoire en championnat. À Lyon, Rodolphe Montagnier, France Inter.
Et donc Nice a battu Strasbourg 1-0.
Une victoire importante pour les Niçois, puisque les Azuréens se hissent provisoirement à la 7e place de la Ligue 1 et restent dans le bon wagon en vue d'une éventuelle qualification pour les places européennes. Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, s'est exprimé il y a quelques minutes donc à Nice au micro de Dominique Poulain.
Plus qu'accrocher le bon wagon, c'était important pour nous de renouer avec la victoire. Sur nos 4 derniers matchs, on avait des résultats qui étaient très compliqués. Et pour le moral, c'était important de gagner. Surtout avec le débauche d'énergie qu'on a eu cet après-midi. Je suis vraiment très content d'avoir pris les 3 points et les joueurs le méritent vraiment. Parce qu'on a perdu les 2 derniers matchs. L'implication à l'entraînement n'a pas baissé. J'ai vu des joueurs qui étaient concentrés, des joueurs qui avaient vraiment envie d'améliorer certains détails de nos matchs. Et aujourd'hui, ils ont vraiment été récompensés de ces dernières semaines de travail. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content pour eux, parce que cette victoire, ils le méritent.
Voilà, et puis un match qui s'est achevé tout de même avec quelques incidents sur le terrain et un carton rouge de chaque côté. Alors la victoire de Nice, 1-0 face à Strasbourg. On joue également ce soir dans le sud de la France, mais à Marseille, au stade Vélodrome, où les Marseillais reçoivent Saint-Étienne avec là un vrai match de haut tableau, puisque Marseille, qui est provisoirement redescendu à la 6e place, eh bien peut revenir à la hauteur des Stéphanois et même les dépasser en chipant la 4e place actuellement dans l'escarcelle des joueurs de Saint-Étienne.
Restons dans le football, mais chez les filles, où le temps est compté avant le début de la Coupe du Monde féminine, qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet prochain.
Oui, pour l'équipe de France, nouveau match de préparation au programme. Ce sera demain à Tours contre l'Uruguay. Les Françaises avaient bien commencé l'année en battant les Américaines 3-1 le 19 janvier. La semaine dernière, elles se sont inclinées face aux Allemandes. Après ces deux gros morceaux, les deux meilleures équipes mis à part la France de cette prochaine Coupe du Monde, eh bien, ce sera l'Uruguay, donc demain, 74e nation mondiale. Alors, ce ne sera pas vraiment le même niveau, hein, puisque la dernière et la seule confrontation avait donné lieu à un 8-0 pour les Françaises. Pas question pour autant de se relâcher sur le chemin de cette Coupe du Monde qui arrivera très vite, d'autant que les Bleus n'ont pas montré leur meilleur visage contre les Allemandes. C'est ce que Corinne Diacre, l'entraîneur des Bleus, a dit aujourd'hui à Tours.
On a l'avantage de rejouer assez rapidement. Donc voilà, maintenant à nous de tout mettre en œuvre pour bien démarrer ce match et surtout pour l'emporter, parce que vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, on doit se racheter tout simplement. Donc on a envie de battre l'Uruguay, effectivement. Ouais. Bah, j'ai envie de voir mon groupe réagir, oui, après une défaite. C'est sûr que le fait d'enchaîner un match tout de suite, ça va nous permettre de rebondir, voilà, tout simplement. On sait ce qu'on n'a pas bien fait. On sait ce que l'on doit faire contre l'Uruguay, donc maintenant, à nous de bien aborder ce match.
Voilà, Corinne Diacre, donc la patronne de l'équipe de France féminine de football, au micro de Pierre-Antoine Lefort de France Bleu Touraine. France-Uruguay, c'est donc demain à 21h au stade de la Vallée du Cher.
La 18e journée du top 14 de rugby à présent, deux matchs étaient au programme aujourd'hui, Toulon et Toulouse, hein, sont ressortis vainqueurs.
Voilà, ça se prononce pratiquement pareil, mais ce ne sont pas les mêmes équipes, ce sont d'ailleurs deux équipes vraiment rivales de ce top 14 historiquement. Alors Toulon s'est imposé 24-11 à Perpignan, et puis alors on attendait beaucoup de Toulouse aujourd'hui à Paris, sur le terrain du Stade Français, au Stade Jean Bouin. Les Toulousains se sont imposés 28-9 avec une victoire bonifiée, en établissant un nouveau record d'invincibilité en championnat de France de rugby. 12 matchs sans défaite. Le leader du championnat n'a plus perdu depuis le 29 septembre. C'était face à Castres, Antoine Martin.
Le Capitole règne en capitale dans ce classico du rugby français. Les Toulousains l'emportent 28-9 face au Stade Français. Le Stade Toulousain qui décroche à Paris le record absolu du nombre de matchs sans défaite en top 14, 12 rencontres de suite sans perdre. La dernière contre-performance remonte au mois de septembre pour les hommes du Gomola. La dernière fois qu'ils avaient réalisé pareille série, ils avaient tout simplement remporté le championnat en 2012. Dernier titre du Stade Toulousain. Toulouse, leader impressionnant du top 14, même privé de ses internationaux titulaires depuis le début du tournoi Destination, ils poursuivent leur marche en avant au championnat. Victoire après victoire et encore une de prestige à Jambouin face à leur adversaire favori, c'est historique. Les Toulousains ont remporté les 7 derniers classicos, dont les 3 derniers à Paris. Quelle performance et leur grand retour en haut de l'affiche.
Voilà donc Antoine Martin au stade Jambouin cet après-midi pour France Inter.
Dernière journée des championnats du monde de cyclisme sur piste en Pologne. Le compteur restera bloqué à 5 médailles pour l'équipe de France.
Une en or, Quentin Lafargue sur le kilomètre, 2 en argent et 2 en bronze. La jeune médaillée de bronze sur la vitesse individuelle, Mathilde Gros, c'était vendredi, a terminé 6e aujourd'hui et dernière de la finale du Keirin qui fait partie donc des épreuves de ces championnats du monde sur piste. Elle était championne d'Europe en titre de la discipline, elle avait donc des espoirs mais donc ça n'a pas marché aujourd'hui.
J'avais mes cartes, j'avais mes armes aussi et j'ai mal couru, donc quand on est en dedans physiquement, bah oui, on peut pas trop concurrencer les autres, mais là je pense que j'avais le niveau et c'est vraiment dommage parce que bah on fait pas beaucoup de championnats du monde, c'est un par an. Des fois on peut avoir la forme et des fois on ne peut pas l'avoir aussi. Donc là c'est une occasion en plus qui s'en va. Donc pour l'instant, bah c'était pas mon heure, c'est tout, c'est comme ça.
Voilà Mathilde Gros, 6e et dernière de la finale du Keirin aujourd'hui au championnat du monde de cyclisme sur piste en Pologne avec Thomas Giraudeau. Cyclisme toujours, première victoire cette année pour Alexis Villarmoz. Le coureur d'AG2R La Mondiale a remporté la Drôme Classique disputée autour de Livron-sur-Drôme. Et cela devant deux autres Français, Valentin Madouas et Warren Barguil.
Le cyclisme s'exporte également depuis plusieurs années, loin en Afrique et notamment au Rwanda, où s'achevait aujourd'hui le Tour du pays.
Et oui, depuis sa création il y a 10 ans, le Tour du Rwanda a toujours été remporté, sauf une fois, par un coureur africain. Et cette année ne déroge pas à la règle avec le succès de l'Érythréen Merawi Kudus de l'équipe Astana. La dernière étape dans les rues escarpées de la capitale, Kigali, a eu lieu ce matin, cela n'a rien changé. Merawi Kudus signe là sa première victoire chez les pros, cela valait bien un reportage. Reportage signé Jérôme Val.
L'hymne érythréen pour saluer la victoire d'un homme qui s'est emparé du maillot jaune au soir de la deuxième étape lundi dernier et qui ne l'a plus lâché malgré les difficultés et la concurrence, Merawi Kudus.
C'est extraordinaire, les supporters m'ont donné beaucoup d'énergie et ils m'ont encouragé tout le long de la course. Avec mon équipe, on a toujours pensé à faire quelque chose de fort et notamment réaliser une course spectaculaire.
Kudus avait été repéré il y a 7 ans sur ce tour du Rwanda justement alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Engagé par une équipe sud-africaine, il a alors enchaîné les grands tours européens, un Giro en 2016, 4 tours d'Espagne et un Tour de France en 2015. Plus jeune engagé à l'époque, il finit 84e. Une ascension trop rapide, estime Philippe Legars, spécialiste du cyclisme africain.
Il a toujours été considéré comme un peu l'équipier de luxe, mais pas plus. Du coup, ils l'ont utilisé. Il a même fait, à l'âge de 22 ans, il a fait comme 2 grands tours. Donc, ils l'ont bien pressé. Et c'est vrai que c'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui à son sujet, c'est de savoir s'il n'a pas été grillé déjà trop tôt, quoi.
Merawi Kudus a rejoint cette année l'équipe kazakh d'Astana, la plus cotée de ce tour rwandais. Bonne pioche, le grimpeur de 25 ans tient enfin sa première victoire en professionnel. Kigali, Jérôme Val, France Inter.
Allez, on va finir ce magazine Intersport avec du tennis. Hommage à Roger Federer, 100e titre hier à Dubaï. 100 titres sur le circuit professionnel, c'est pas le record de Jimmy Connors, mais presque. Il l'a obtenu face au grec Tsitsipas. Et puis en Formule 1, vous savez, le début de saison, ce sera dans 15 jours à Melbourne avec le premier Grand Prix d'Australie. L'écurie française Renault qui a engagé cette saison un nouveau pilote, Daniel Ricciardo, l'ancien de chez Red Bull, est satisfaite des essais à Barcelone puisque les Renault montent en puissance. On va en reparler sur France Inter d'ici les prochains jours.
Merci Jean-Pierre Blimaud.